texte pour introduire ce moment dans Joël, au chapitre 2 et le verset 21. C'est un texte que nous connaissons, on va le prendre un petit peu dans son contexte. Et voilà ce qu'il est dit donc dans Joël, au chapitre 2 et le verset 21. Ça va arriver. « Terre, n'aie pas peur. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, habitants de Sion, habitants de Saint-Louis, habitants du Ningue ou habitants, je ne sais pas d'où vous venez ce matin, on peut s'approprier également ces promesses. Soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Et il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasirez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y en a pas d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs, sur les servantes. Dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Amen. La pluie vient, la pluie arrive. C'était le thème du Congrès national des Assemblées de Dieu au mois de mars sur Montluçon. Et nous avons repartagé ces textes, on a se replacé devant le Seigneur pour notre nation, pour l'Église de Jésus-Christ en général. Et ce matin, ce texte d'introduction nous rappelle que la pluie dans la Bible, elle est associée à la bénédiction, elle est associée à l'œuvre du Saint-Esprit. Elle est associée, on pourrait dire, au réveil, quelle que soit la définition qu'on a du réveil, en tout cas quelque chose à quoi nous aspirons dans notre vie, pour connaître, comme on l'a chanté, un peu plus de Jésus, parce que nous savons que c'est la meilleure part pour nous. Jésus dira à Marthe et Marie, concernant Marie, une seule chose est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il négligeait l'action de Marthe, bien au contraire, mais il rappellera une seule chose est nécessaire, être au pied de la parole de Dieu, au pied de Jésus, et être nourri de cette communion avec lui. Et on va poursuivre ce thème avec ce texte bien connu, on va pouvoir là aussi l'afficher, c'est ce texte de 1 Roi, au chapitre 18, et à partir du verset 42, on pourrait lire au 46, ce texte où justement bien la pluie est venue. Et on se servira d'un verbe qui revient 7 fois, si j'ai bien compté avec mon petit doigt sur ma Bible, de ce verbe, pour avoir ce fil conducteur et ce matin nous rappeler quelques principes bibliques pour aspirer, pour être renouvelé, pour s'approcher un peu plus du trône de la grâce. Alors, verset 41, voilà, toi tu as 42. Moi, je commence à 41. « Puis Élie dit à Acab, monte, manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Acab monta, manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel, il se pencha jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, monte, regardez du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne-y. La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui se lève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. » Et il dit, « Monte, dire à Acab, attelle ton char, descends, afin que la pluie ne puisse pas le retenir. » En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla, il y eut une forte pluie. Acab monta sur son char, il partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Voilà notre texte de base, la pluie vient. Vous avez noté le verbe qui revient 7 fois dans ce texte, c'est le verbe monter, exactement, monter. Et ça va nous servir un petit peu de trame, puisque Akab va monter, le serviteur de Dieu va monter, et puis Élie va monter. Mais on va s'apercevoir qu'ils ne vont pas monter au même endroit, de la même manière. Mais en tout cas, ils vont tous monter, et ça va être notre fil conducteur ce matin. Akab monta pour manger et boire, on a ça dans notre texte, et puis un peu plus tard, il va monter sur son char. Il va monter pour manger et boire. Alors rapidement, qui est Akab ? Hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un petit résumé, je vais vous le lire, c'est dans 1 Roi 21-25, vous pourrez relire dans 1 Roi 18, mais il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, ça c'est sa femme, et qui donc était à ses côtés, l'y excitait. Voilà. Et j'ai mis, c'est un couple infernal. Je pèse mes mots, j'en passe souvent ce genre de mots, mais c'est un couple infernal qui va régner pendant 22 ans sur Israël. Hein, on sait que Akab, eh bien, est à l'origine de cette immoralité. Jézabel va faire tuer même des prophètes de l'Éternel, etc., etc. Jézabel, d'ailleurs, elle a un nom extraordinaire. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire fumier et ça veut dire infréquentable, sans cohabitation. Voilà. On a l'esprit de Jézabel dans Apocalypse 2. Voilà, vous relirez ces textes. Mais en tout cas, voilà le portrait un petit peu hein, de ce couple infernal qui est à la tête d'Israël pendant 22 ans. Et on peut dire que ce pays est dans un profond temps de crise où il y règne une ambiance spirituelle ténébreuse. Je veux dire, il y a la prostitution sacrée, il y a les Baals, les Astarté, etc. Le peuple est dans les ténèbres d'une manière terrible. Pourtant, il y a un reste, nous le savons, hein, mais d'une manière générale, eh bien, ce sont des temps de ténèbres terribles. Et on pourrait dire ce matin qu'on retrouve aussi dans notre monde, dans notre société, eh bien, ce genre d'état d'esprit qui y règne. Alors peut-être pas de la même manière, mais vous savez, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Tout ce qui peut être caché, qui se fait dans les ténèbres, ce sont des choses certainement hein, qui, si elles étaient révélées là aujourd'hui, nous écoeuraient, on serait d'une tristesse, attristés de manière terrible. Mais là encore, on a une description dans 2 Timothée 3, 1-4, hein, dans les derniers temps, etc. Vous pourrez également relire ces textes. En tout cas, eh bien, il est dit que Akab, il va monter pour manger et boire. Voilà son état d'esprit. Il va monter pour manger et boire. Il est quand même à noter que c'est Élie qui interpelle Akab. C'est quand même Élie qui lui dit « Va, monte, mange et bois » parce qu'il y a un bruit qui se fait annonciateur de pluie. Ça veut dire, c'est comme si Dieu donnait une dernière chance à cet homme de se repentir de sa folie, etc., mais de ses mauvaises voies, mais on le sait, il n'en sera rien. Mais c'est comme si Dieu lui disait, écoute, tu peux aller manger et boire, mais attention, il y a un bruit aussi qui va accomplir ma promesse. 2 Pierre 3,9, concernant notre monde, concernant la société dans laquelle nous sommes, il est dit ceci dans 2 Pierre 3,9, c'est que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, celle de son retour, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On a un petit peu ce paradoxe. Ce Dieu qui va accomplir sa promesse, la pluie va tomber, et puis ce Dieu qui, malgré tout, avertit encore Akab. Moi, je l'aurais laissé tomber, hein. Il serait pris dans cette pluie, dans cette averse, il aurait été bloqué sur le mont Carmel, ça aurait été bien fait pour lui, le char embourbé. Mais Dieu l'avertit quand même. Dieu l'avertit quand même. Oui. Et 2 Timothée 2,16, nous savons que les hommes avanceront toujours plus dans l'impiété. Et puis il y a ce texte, combien rassurant pour nous et terrible également pour d'autres, c'est dans Apocalypse 22, versets 10 à 11. Il est quand même dit ceci, et ce doit nous interpeller ce matin, 22, 10, 11, il est dit ceci, « Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre. Le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices. Et que celui qui est sale se salisse encore. Que celui qui se souille encore. mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Et nous avons effectivement cette double réalité, Dieu qui use de patience envers ce monde, qui court à sa perdition, et de l'autre côté, cette réalité pour nous, bien de connaître un peu mieux le Seigneur. Alors, on ne va pas s'attarder malheureusement sur Akab, hein. C'est l'image de l'homme sans Dieu, l'image de l'homme contre Dieu, bien sûr, qui monte pour manger, pour boire, pour se divertir, pour assouvir ses passions, ses désirs, sans se douter, malheureusement pour lui, eh bien, qu'il est esclave hein, de ce qui a triomphé de lui, nous le savons. Et puis, une dernière pensée sur Akab. Akab va monter ensuite sur son char. Hein, là encore, il faut qu'Élie envoie son serviteur, on en reparlera tout à l'heure, pour que ce serviteur dise à Akab, il est tellement pris, je pense, par ce qu'il mange, par ce qu'il boit, qu'il n'a plus aucune notion de ce qui se passe autour de lui. Et il faut encore que Dieu l'avertisse hein, pour qu'il ne reste pas coincé à cause de la pluie sur le mont Carmel. Quelle patience! Quelle patience! Rien ni personne ne pourra reprocher quoi que ce soit à Dieu lorsqu'on sera devant lui. Je vous l'ai déjà dit, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, quand j'aurai Dieu en face de moi, je lui dirai ces quatre vérités. Je dis, mon pauvre, tu ne sais pas ce que tu dis, la Bible nous dit que toute bouche sera fermée devant lui, et rien ne peut être, Dieu est saint, et là encore, il va avertir Akab, le roi, hein, et le serviteur le fera. Mais Akab, lui, eh bien, dès qu'il va entendre ça, il dit, oulala, il faut que je m'en aille. Et ça, c'est l'expression de son impuissance, de sa fuite, de ses réalités devant la parole de l'Éternel qui va s'accomplir. C'est une réalité. Akab ne peut rien faire. Et il fuit. Il s'enfuit, il part de ce lieu. C'est son impuissance de roi qui ne peut rien quant à la puissance du roi des rois. Psaume 20, 8-9, pour nous encourager ce matin. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Amen. Eh oui, on continue à lui faire confiance. Eux, ils plient, eux, ils tombent, nous tenons ferme, nous restons debout. Amen. Et on voit de quelle manière, hein, Élie, on le verra tout à l'heure, eh bien, est resté debout hein, en courant devant le char d'Akab. Et puis, psaume 37.1, j'ai rajouté ce passage, c'est peut-être pour quelqu'un, parce que parfois, devant la réussite des méchants, de ceux qui nous entourent, peut-être d'un patron, un membre de la famille qui réussit malgré sa méchanceté, il y a peut-être un petit peu d'amertume qui peut monter. Et le psaume 37, verset 1, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Et d'autres textes nous disent « Bien, ce sera d'abord mal faire, et puis ils seront fauchés aussi vite que l'herbe est fauchée. » Oui, il y a cette injustice, oui, il y a cette méchanceté, mais Jésus a dit que c'est seulement dans les derniers temps que l'ivraie sera arrachée. Nous vivons dans un monde qui est injuste, qui est méchant, que Dieu nous aide, hein, face peut-être à des situations comme celle d'Akab, où nous subissons parfois la méchanceté, nous ne nous irritions pas, et nous laissions là aussi le Seigneur agir. Alors, Deux autres personnages qui sont plus intéressants, en tout cas pour nous, c'est le serviteur qui va monter, et puis ensuite il y aura Élie. Le serviteur monte, lui, il pour voir. Akab monte pour manger et boire, mais Élie, lui, va monter pour voir, pour regarder. Monte, regarder du côté de la mer. Élie ne va pas associer son serviteur à la présence du roi. En tant que serviteur, il aurait pu dire, ben, écoute, va servir le roi Akab, etc., va dans sa présence, reste à côté de lui, etc. Non, Élie n'associe pas son serviteur à la présence d'Akab, mais il lui fait prendre une autre direction. Pour moi, c'est une direction certainement qui est opposée. Il dit, toi, monte regarder du côté de la mer, pas du côté où Akab se réjouit, mange et boit avec toute sa communauté, mais toi, tu vas monter du côté de la mer, tu vas monter du côté de la mer. C'est une direction opposée, complètement opposée. Et là, on a ce texte dans Malachie, au chapitre 3, verset 18, qui nous dit, et ça doit aussi nous rassurer, malgré tout ce qu'on peut voir, dans les derniers temps, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Oui, le mal grandit, le mal augmente, mais en même temps, on le verra tout à l'heure, eh bien, nous voulons nous aussi eh bien, augmenter, monter dans la foi, dans la sainteté. Jésus va dire dans Jean 17, hein, verset 15, « Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal, de nous garder du mal. » Et nous garder du mal, eh bien, c'est quand le Seigneur nous envoie à des directions opposées à l'état d'esprit du monde. Élie va envoyer son serviteur regarder du côté de la mer. Pas regarder du côté de ce que Akab faisait, de ce qu'il mangeait, de ce qu'il buvait. Ça n'intéressait pas Élie et son serviteur, mais de regarder du côté de la mer, de là où la promesse de Dieu allait s'accomplir. Et il faut l'avouer, moi le premier, on regarde souvent, alors peut-être parfois inconsciemment, innocemment, mécaniquement, machinalement, mais du côté du monde, ce qu'il fait, ce qu'il dit, les dernières nouvelles, les people, les machins, les trucs, et ça nous apporte quoi ? Rien du tout, parce que on n'a pas des yeux derrière la tête. Hein. Si je tourne mon regard à gauche, il n'est pas à droite. Et cela nous empoisonne, nous pollue, etc. Que Dieu nous aide à regarder du côté de la mer, du bon côté, du côté que Dieu veut que nous puissions regarder. Parce que si nous voulons voir la pluie arriver, il nous faut aussi monter, mais pas sur le terrain du monde, mais sur le terrain que Dieu nous propose, sur le terrain que Dieu nous montre, sur le terrain que Dieu nous indique et qui est à l'opposé de l'état d'esprit du monde, qui est à l'opposé de l'état d'esprit du monde. Regarder du bon côté, pour nous ce matin, c'est par exemple Hébreux 12:2, c'est avoir les yeux fixés sur Jésus, qui suscite la foi, qui l'amène à la paix. Ça, c'est regarder du bon côté. Hein, dans sa parole, dans sa présence, s'édifier dans les cantiques, dans la communion fraternelle. Là, on regarde à Jésus et on regarde du bon côté. On est sûr de ne pas se tromper. Monte, regardez du côté de la mer. J'ai relu plusieurs fois le texte parce que Élie va ensuite répéter cette fois cette injonction. Retourne-y. Car le serviteur est revenu et revenait en disant « Il n'y a rien. Il n'y a rien. » Et là, je me suis dit, on peut se reconnaître dans ce constat, dans cette déclaration. Peut-être que ce matin, dans certains domaines de nos vies, face à certaines prières et inexaucées pour l'instant, on dit « Seigneur, je ne vois rien, je ne vois rien. Ma situation ne bouge pas, mon caractère ne bouge pas, mes prières semblent ne pas être exaucées. Je prie pour ma famille, je prie pour mes voisins, je prie pour mes collègues de travail, je prie pour avoir un emploi et je ne vois rien, rien, rien ne se passe. Pourtant, Seigneur, je regarde du bon côté. » Pourtant, je fais confiance à ta parole, je sers ta parole sur mon cœur. Pourtant, bien, je prends du temps avec toi, mais pour l'instant, Seigneur, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce qu'on pourrait entendre aussi le Seigneur nous dire avec beaucoup d'affection et pas de reproche, retourne-y, persévère, prends courage. Les signes de ma bénédiction, eh bien, arrivent. Et même si pour l'instant, pour la 7e fois encore, tu dis « il n'y a rien », retourne-y, persévère, persévère dans ma présence, ne te décourage pas, ne te fatigue pas, mais sois renouvelé, les signes de ma bénédiction arrivent. Même si pour l'instant, tu ne vois rien, retourne-y. Et je le dis, je pense que le Seigneur le dit avec beaucoup d'affection. Pas de reproche. Pas dit, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Tu n'as plus la foi maintenant? Non, je pense que c'est comme un père, hein, ou une mère peut dire à son enfant, bien, allez, on va réessayer, on va recommencer. Une fois, deux fois, sept fois. Et là, à un moment donné, bien, nous pourrons dire comme cet homme, ce serviteur, à la 7e fois, je pourrais dire, il y a un petit nuage qui s'élève de la taille d'une paume de main. Vous voyez la paume de ma main? Elle est petite, hein? Eh bien, le Seigneur va faire dire ça à son serviteur parce que le serviteur va voir. Et frères et sœurs, ce matin, ne négligeons jamais les petits commencements, les petits signes, un exaucement de prière, une découverte de la parole de Christ. Moi, je suis comme vous, hein, il y a des fois, ça fait 50 fois que j'ai lu le même texte, et la 51e fois, on comprend quelque chose. On ne sait pas trop comment, pourquoi, ça nous correspond, on a notre la vie spirituelle qui a été illuminée d'un coup, etc. Et là on dit, waouh, on en a pour la journée, merci Seigneur, je comprends, je connais, je saisis. Ne négligeons pas les petits commencements, les petits signes, parce qu'ils sont annonciateurs, eh bien, de belles promesses. que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Il y a un temps pour tout, mais ce matin, ne nous décourageons pas. Oui, le Seigneur, avec beaucoup d'affection, nous dit, il nous dit, retourne-y, vas-y, je suis avec toi, persévère, n'abandonne pas, ne lâche pas, je suis avec toi. Restons comme ce serviteur dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Retournons-y. Et le Seigneur nous le demande avec beaucoup d'affection. Amen. Et puis, ensuite, Élie va dire à son serviteur, monte dire à Akab, attelle ton char. Le serviteur, ayant vu ce signe, hein, entre parenthèses, il était prêt pour le marathon, lui. Hein. J'ai compté, c'est celui qui a fait le plus d'allers-retours. 7 fois, plus déjà une fois, etc. Et puis une 9e fois pour aller voir Akab. Il devait avoir des mollets de campeur, hein, se préparer pour les Jeux Olympiques de l'époque. Mais il l'a fait. Et ici, eh bien, il va monter une 9e fois pour aller dire à Akab. Et ce serviteur qui a vu ce signe, là aussi, eh bien, est investi d'une autorité spirituelle qui lui permet d'aller voir Akab sans crainte. C'est là qu'on le retrouve, vous savez, cette autorité spirituelle de Moïse face à Pharaon. C'est là qu'on retrouve l'autorité spirituelle de David face à Goliath, de Shadrach, Meshach, Abednego face à Nebuchadnezzar, de Pierre et Jean face au Sanhédrin, et puis on pourrait dire d'Étienne face à ses persécuteurs. Cette autorité spirituelle que Dieu nous donne lorsque nous avons plongé nos regards dans ses promesses, même si on les a saluées de loin, même si elles ne sont pas encore effectives, il y a cette autorité spirituelle qui nous permet eh bien, de partager cette parole. Nous devenons des messagers de bonnes nouvelles, des messagers d'espérance, des messagers qui n'avons pas à craindre de notre entourage, mais qui partageons avec foi, avec espérance, eh bien, ce que nous vivons en Christ. Ce n'est pas toujours évident de témoigner, je le sais, on a parfois quelques craintes, quelques réticences, mais ce matin, eh bien, nous qui avons les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons là aussi être appelés à partager, à témoigner, et même peut-être devant quelqu'un qui, pour l'instant, nous effraie un petit peu ou qui a une position d'autorité, que ce soit au travail ou dans le voisinage, peu importe. Monde dira à Akab. Oui, peut-être que cette semaine, ce mois-ci, le Seigneur va nous dire, eh bien, monde dira à un tel ou à une telle. Il n'est pas facile, elle n'est pas facile. C'est quelqu'un que, pour l'instant, bien, j'ai du mal avec. Monde lui dire. Là aussi, bien, fais un pas. Je suis avec toi. Ne crains pas. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Et puis on termine. Élie monta au sommet du Carmel. Et j'ai mis, Akab monte pour manger et boire. Le serviteur monte pour voir. Mais Élie, lui, il monte parce qu'il croit. C'est pas pareil, la motivation. Dans 1 Pierre 18, 42, alors on va voir si la traduction est la même, hein, on va voir si tu peux remettre le texte. J'ai découvert, parce que je m'instruis en même temps, est-ce que vous connaissez une locution prépositive ? Moi, ça sonne bien, hein, j'ai trouvé ça très, 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 très bien. Alors, si tu n'as pas le texte, ce n'est pas grave. Hein. C'est 1 Pierre 18, 42. Un roi, pardon. Oui, un roi. J'ai dit Pierre ? J'ai dit Pierre, vous êtes des témoins, oui ? D'accord. Non, pas ce genre de Pierre. Un roi 18, 42. On va découvrir, si la traduction est la même, une locution prépositive qui en dit long. Ah oui, alors toi tu as un mais, d'accord. Bon, c'est pareil, on en a parlé dernièrement. Moi j'ai quant à Élie, il monta au sommet du Carmel. Voilà. En tout cas, que ce soit un mais ou un quanta, une locution prépositive ou une coordination, hein, mais ou de cornicar, c'est la même chose. Ça marque bien une différence, une rupture entre le cheminement, la vision d'Akab, et entre le cheminement et la vision d'Élie. Il y a un principe qui est pour nous extraordinaire ce matin. J'ai mis ça, puisque le monde monte pour manger, pour boire, il nous faut monter plus haut, au sommet, pour voir la gloire de Dieu. Amen. On n'a pas d'autre choix. Parce que le monde, il monte plus dans son immoralité, dans son péché, dans ce qu'il vit. Et si nous voulons voir eh bien, ces signes du réveil, ces promesses, la paume de main, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il nous faut monter plus haut. Et plus haut, là, ici, c'est au sommet. On ne peut pas plus haut. Au sommet du Carmel. Au sommet du Carmel. On n'a pas d'autre choix. Si on veut voir un réveil, d'abord dans nos propres vies, si on veut voir la pluie d'arrière saison venir, si on veut voir une effusion du Saint-Esprit, si on veut voir, là aussi, on n'a pas le choix. Il nous faut monter plus haut que le monde, plus haut que sa conception, plus haut. Et Élie monta au sommet du Carmel. Le Carmel, c'est une chaîne de montagnes qui forme un plateau. Ça fait environ 8 km de large sur 40 km de long. Et Carmel, ça veut dire lieu fertile, vignoble de Dieu. Lieu fertile, vignoble de Dieu. Et je suppose que là, bien, Élie était au sommet du Carmel. Un chant qu'on aurait pu chanter aussi ce matin, vous connaissez, hein, vous le connaissez. Je veux monter sur la montagne. Hein, c'est là qu'on le rencontre Dieu. Le Cantique des Cantiques nous dit ceci, c'est la description du bien-aimé, « Ta tête se dresse aussi fièrement que le Carmel, et ta tête est élevée comme le Carmel. » Alors, comme Élie, élevons notre niveau spirituel. Alors, attention, non pas par orgueil, vous m'avez bien compris ce matin, hein, par rivalité, par vaine gloire, ce n'est pas du tout l'objet, mais pour dépasser, pour surpasser la mentalité du monde, et apporter à notre Dieu toute notre reconnaissance. Amen. Élie, lui, il va monter au sommet du Carmel. Et puis, on termine avec cette attitude incroyable. Il se pencha à terre et il mit son visage entre ses genoux. Vous essaierez de faire ça déjà cet après-midi, hein. Après ou avant manger, je ne sais pas, hein. Mais déjà physiquement, c'est quelque chose qui est compliqué. Mais quelle attitude, quelle position surprenante. Mais finalement, elle décrit bien l'intérieur, l'attitude intérieure de cœur d'Élie, et puis ce qui doit être la nôtre aussi, dans une perspective de réveil, dans une perspective eh bien, de retourner, de voir les signes de la promesse de Dieu, déjà comme la paume de la main d'un homme. Notre visage, c'est l'expression de notre personnalité. Je vois ce matin à vos visages que vous êtes attentifs, et ça me rassure. Je vois de temps en temps, et vous n'y êtes pour rien, ça ne se passe pas ici, mais je vois de temps en temps dans certaines assemblées des frères et sœurs qui commencent à s'endormir. Et souvent, alors moi ça ne me dérange pas, hein, mais parfois il y a des frères et sœurs qui ont fait les 3-8, qui ont fait une semaine de boulot. Et moi, à leur place, il y a des frères qui sont âgés. J'avais un frère à Saint-Dié, lui, dès qu'il se mettait assis, le cœur ralentissait. Et il s'endormait. C'est une maladie, hein. Alors, voilà. Et je le dis avec bienveillance. Honnêtement, je préfère que quelqu'un s'endorme dans la réunion qu'il s'endorme devant sa télé. Voilà, c'est dit, hein. Bien. Mais c'est l'expression, le visage, c'est l'expression de personnalité, plus que n'importe quelle autre partie. Hein, quand on voit quelqu'un, eh bien, tout de suite, on regarde son visage, etc. Il y a des signaux. Il est le support aussi, je me suis rendu compte de ça, de nos cinq sens. Tout est concentré sur le visage. Hein, hein, notre cinq sens. On peut aussi toucher, on n'est pas obligé avec les doigts, hein, mais la peau est sensible, etc. Et puis, il exprime nos sentiments. Il exprime nos émotions, et puis surtout, il nous rend reconnaissables. Voilà le visage. Et c'est le visage d'Élie qui va être dans ses genoux. Et pour moi, j'y vois trois expressions. D'abord, un cœur rempli de reconnaissance devant la majesté divine. Élie, il est à terre. Il y a Éphésiens 3, hein, verset 8-14, si on peut le lire, ce matin, dans cette perspective de la pluie, de la bénédiction, de la grâce de Dieu, comme Élie, ayant un cœur qui déborde de reconnaissance devant l'infinie majesté hein, de notre Seigneur. Il est dit ceci dans ce texte, on ne comprend pas toujours, hein, mais les questions du mystère caché en tant qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités, les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, et puis on pourrait multiplier, voilà. Je veux dire, le texte est tellement profond qu'on a du mal parfois à saisir. Mais ce matin, c'est ça l'expression, mon visage entre mes genoux. Seigneur, qui est-ce que je suis devant toi? Et pourtant, reconnaissant, un cœur qui déborde de reconnaissance. Deuxième pensée, ça exprime également le renoncement personnel. Hein, Paul va l'écrire aussi dans Philippiens, au chapitre 3, verset 16. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » C'était l'objectif de Paul, c'était de gagner Christ, de voir ses signes de la gloire de Dieu devant lui, et tout ce qui était humain, de laisser le renoncement personnel. Élie ne le sait pas encore, mais il va vivre une autre expérience quelque temps après dans la vallée avec Jézabel. Pour l'instant, bien, on pourrait dire qu'il est sur un petit nuage. Hein. Il y a une manifestation glorieuse, il y a des prophètes, etc. Mais il anticipe peut-être, il sait que devant Dieu, bien, il a besoin aussi de ce renoncement personnel. Et puis, dernière pensée, ça exprime également la mort à soi-même. Et pas dans le sens négatif. Parce que j'ai retrouvé ce texte de Colossiens 3:3, il est extraordinaire. Vous êtes mort, ok, mais la suite est extraordinaire. Votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Elle est cachée en Christ. Et si ce matin, ma vie est cachée en Christ, est en Christ, eh bien, je suis la personne la plus heureuse, la plus épanouie de cette terre. Alors, d'un côté, oui, je suis mort à moi-même, ma chair doit être crucifiée, mais je suis caché en Christ. Et puis, on reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, on conclut ce matin, c'est Jacques qui nous rassure un petit peu, parce qu'on croit, waouh, Élie, quel homme, Élie, quand même, hein, on pourrait se dire, ça c'est bon pour Élie, le visionnaire, celui qui a, etc., était au Mont Carmel. Alors, Jacques, connaissant peut-être nos réactions ce matin à Saint-Louis, va nous écrire ceci, inspiré par le Saint-Esprit. Et il va dire ceci, Jacques 5, 17, 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Eh oui, ça nous rassure quand même quelque part. Hein. Ce n'était pas un surdoué, ce n'était pas un surhomme, Élie. On le voit bien, hein, en haut, en bas. Eh oui. Hein. Mais en tout cas, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi, puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Amen. La fin de notre récit, celui de 1 Roi 18, nous dit que la main de l'Éternel fut sur Élie, pas sur Akab. Pas sur Akab, c'est sur Élie. Et on voit la différence, et j'ai cette image, où Akab fuit la pluie. Mais Élie, lui, il l'annonce et il en est le témoin. Il est devant le char. J'ai regardé, je suis curieux des fois, hein, combien de kilomètres on pouvait faire avec des chevaux pendant une journée, etc. Alors, on vous répond, ça dépend. Ça dépend du cheval, ça dépend du terrain, ça dépend du char, ça dépend du poids, etc. Mais on peut faire entre 20 et 50 kilomètres dans une journée, avec un ou deux chevaux et puis un char attelé. Bon, je me dis que même si Akab n'a fait que 20 km, il y aurait 30 km hein, entre les deux. 30 km, eh bien, il y a quand même Élie qui est devant et qui court et qui ne s'arrête pas. Akab est en train de fuir, mais Élie, lui, ne fuit pas. Au contraire, il est témoin et il annonce la pluie. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Ne fuyons pas, mais soyons des annonciateurs de la bonne nouvelle et des témoins de la bonne nouvelle. Chacun pour nous. Si Élie était un homme de la même nature, il y a quelque chose qui est sous-entendu dans ce texte, c'est que Dieu également est de la même nature. Le Dieu d'Élie n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en cela, ça nous rassure ce matin. Amen. Te bénissons, Seigneur, ce matin pour ta parole. Te louons de tout notre cœur, parce que tu es vivant. Et nous avons dans notre cœur ce psaume « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Seigneur, c'est notre prière, c'est notre attitude de cœur, que ce matin nous soyons désaltérés, nous soyons rafraîchis, parce que nous aspirons à quelque chose de plus. Nous bénissons déjà ton nom pour tout ce que tu nous as donné jusqu'à maintenant, pour tout ce que tu es devenu pour nous jusqu'à maintenant. Mais nous voulons continuer à grandir, à aspirer, Seigneur, nous voulons ce matin te rendre grâce et nous voulons nous encourager mutuellement. Seigneur, nous en voulons entendre ta voix qui nous dit « retourne, persévère, ne crains pas ». Seigneur, il n'y a rien pour l'instant, je ne vois rien. Et Dieu nous dit, te dit, me dit « retourne, persévère, jusqu'à ce que tu vois ce signe de ma grâce, de ma promesse, jusqu'à ce que tu vois ces signes annonciateurs qui annoncent d'autres promesses. Ne te décourage pas, persévère, retourne. » Merci Père pour ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce d'un cœur reconnaissant pour tout ce que tu es devenu pour chacun. Aide-nous Seigneur, à annoncer comme Élie, à être témoin de cette pluie qui vient, Seigneur, dans nos cœurs, qui vient rafraîchir notre nation, qui en a tant besoin. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Est-ce qu'on pourrait prendre encore quelques instants ce matin pour partager le repas du Seigneur, hein? Peut-être que je demanderai à Jessica, on ne la voit pas souvent à la table de la Sainte-Seine parce qu'elle est derrière le piano, derrière la guitare, mais ça ne l'empêche pas non plus, hein, de partager aussi. Peut-être on pourrait demander à Manette, hein, si elle voudrait venir aussi. Et puis on va demander une autre sœur, tiens, peut-être pourrait venir. Hein,